Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Académie. Aujourd'hui, nous allons parler d'une artiste, Rosa Bonheur, qui fête cette année ses 200 ans. Elle a consacré toute sa carrière à la peinture animalière, un genre auquel elle donne vraiment ses lettres de noblesse. Veaux, vaches, cochons, mais aussi chiens, chevaux ou lapins. Dans ses œuvres, les bêtes accèdent au statut de véritables personnages, un regard nouveau qui parle à notre monde contemporain. Rosa Bonheur était aussi une femme indépendante. Elle a vécu de son art sans jamais se marier. Certains en font une icône du féminisme. Nous allons revenir sur ces deux traits de modernité avec Patricia Bouchenaud-Deschin qui vient de lui consacrer un roman biographique aux éditions Albin Michel. J'ai l'énergie d'une lionne dans un corps d'oiseau. Bonjour.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Alors Patricia Bouchenaud-Deschin, vous êtes historienne et vous avez choisi la forme du roman pour parler de ce personnage, pourquoi ?
Alors, je n'ai pas hésité très longtemps. La première raison était que Rosa Bonheur est un personnage sur lequel il y a encore tout à découvrir. Certes, il y a déjà eu des livres qui ont été écrits, les mémoires de son amie Anna Klumke ont paru en fac-similé, grand format, avec toutes les illustrations magnifiques, reparaissent en poche, mais c'est encore une réécriture, ça n'est pas Rosa qui parle, c'est une réécriture de l'histoire. Et il y a tout un travail d'exhumation des archives un peu partout dans le monde, et notamment au château de Thomery, qui fait que plein de choses sont en train d'être mises à jour. Et je pense qu'il faudra encore 10 ans pour réécrire la biographie de Rosa Bonheur. Et j'avais envie de faire autre chose. Peut-être que les événements actuels, le confinement, etc., ont fait que j'ai eu envie d'écrire pour un plus large public. Et surtout, à partir du moment où j'ai découvert un ressort insoupçonné dans son histoire, qui était un ressort éminemment romanesque, qui était celui, est-ce qu'on en parle maintenant ou...
Tout à fait, le ressort amoureux.
Un ressort amoureux tout à fait étonnant, puisqu'il s'agit d'un homme, et pas n'importe lequel, Sir Edwin Landseer, qui est donc le plus grand peintre animalier britannique, peintre très proche de la reine Victoria, et qui est une figure absolument magnifique. Et qui se cachait dans les mémoires de Rosa et que j'ai mise à jour. Et c'était une histoire tellement incroyable que le romancier pouvait se glisser dans cette histoire en mettant de côté d'autres pans qui ont pu être abordés par d'autres auteurs pour découvrir cette Rosa Bonheur qui, je ne le savais pas quand j'ai mis la dernière pointe au roman, et je m'en suis rendu compte après, en fait, les Anglais l'appelaient leur Jeannère. Et donc, là, il y avait vraiment une matière incroyable.
Cette histoire entre la française et l'anglais, deux des plus grands artistes de leur temps, elle était établie dans les sources, ou donc exactement ?
Alors, elle était établie d'abord, c'est Rosa qui en parle. C'est Rosa Bonheur qui en parle elle-même dans ses fameux mémoires dictés à Anna Klumke. Alors, on sait chacun qu'il faut prendre avec d'infimes précautions des mémoires dictées par une personne à la fin de sa vie à une femme qui elle-même est une féministe engagée, qui vraisemblablement était homosexuelle et à qui Rosa Bonheur a tout légué. Elle a tout légué, non pas en raison de ces deux critères, mais parce que pour elle, Anna Klumke était une femme qui venait d'un pays très en avance sur les droits de la femme, les États-Unis, et elle venait d'une famille absolument exceptionnelle. Donc non seulement Anna Klumke était une peintre très reconnue dans son pays, mais elle avait 3 sœurs qui étaient toutes absolument incroyables. L'une était une des premières femmes chirurgienne, une autre une des premières femmes astronomes et la troisième une des premières femmes chef d'orchestre. Donc ce sont des portraits de femmes absolument incroyables et quand elle va léguer tout son héritage patrimonial et en l'occurrence matrimonial puisque également hérité de son amie d'enfance, eh bien elle va le léguer non pas à sa famille à qui elle a tout donné pendant toute sa vie, et qu'elle estimait qu'ils avaient suffisamment reçu, et que c'était en plus des hommes, ils pouvaient se débrouiller tout seuls. Elle a voulu le léguer à des femmes pour que aussi son héritage pictural et son combat pour l'égalité entre faire de la femme l'égale de l'homme parce qu'elle l'est naturellement et qu'elle avait grandi dans cette philosophie grâce à l'entourage de ses parents, eh bien, soit dans des bonnes mains et des mains qui puissent transmettre tout cela. Et donc, du coup, cette écriture de l'histoire fait que Anna Klumke va se retrouver très vite en charge de cette histoire et beaucoup plus tôt qu'elle ne le pensait, puisque Rosa Bonheur va mourir bêtement en attrapant froid en surveillant les travaux du dernier atelier qui était en cours de construction pour toutes les deux. Et du coup, Anna va se retrouver seule à écrire cette histoire et à mettre en forme ces notes prises sous la dictée de Rosa Bonheur. Et dedans, j'ai découvert des choses absolument étonnantes. D'abord, il y a pas mal d'erreurs. Donc pas mal d'erreurs historiques qui ne sont pas graves parce que ça ne remet pas en cause l'histoire générale de Rosa Bonheur, mais il y a pas mal d'inexactitudes. Alors si on met ces inexactitudes les unes au bout des autres, on se dit bah, il faut faire d'autant plus attention à l'ensemble.
Et puis, il faut être vigilant.
Il faut être vigilant. Et puis quand on regarde et on étudie un peu les occurrences, etc., etc., je me suis aperçue que des personnages qui avaient été pour elle très importants dans sa vie occupent une toute petite part. Je pense à un peintre comme Paul Chardin, dont on a plusieurs centaines de lettres qui ont été échangées entre Paul Chardin et Rosa Bonheur. Eh bien, on a très très peu de choses qui apparaissent dans ses mémoires, alors qu'il a été un personnage très très important. Et en même temps, il y a d'autres noms qui se glissent. Alors, évidemment, il y a ceux qui ont joué un grand rôle dans le lancement de sa carrière, Horace Vernet. Personne n'avait creusé ce personnage et l'importance qu'il pouvait avoir. Alexandre Dumas. Un petit nom comme ça glissé. Et quand on met les choses, on remet le puzzle bien en place et on se rend compte qu'il a été absolument fondamental et il a accompagné toute sa vie. Et puis, on trouve le nom de Sir Edward Lancer. Et surtout, à 16 occurrences, c'est quand même pas mal, de manière totalement illogique. Et tout à coup, ah bah oui, on pense à voilà, deux tableaux qui ont été très importants pour moi, dit-elle. Et puis on regarde les tableaux, comme par hasard, ça correspond à deux tableaux qui ont joué un rôle important dans la carrière de Lancer. Ces tableaux correspondent à des lieux précis où Lancer a été, et Rosa aussi. Et donc voilà, tout cela, mis à bout, a fait que, en regardant tout cela, et en plus cette phrase incroyable, où elle conclut un chapitre en disant « Beaucoup se sont demandé si entre Sir Edward Lancer et moi, ça n'a été qu'une simple passion d'art. » 5 points de suspension, et il n'y a pas de réponse. Or, Rosa Bonheur donne toujours des réponses très précises sur les sujets. Et donc, c'était une invitation extraordinaire pour, d'une part, l'historienne qu'elle mène l'enquête, et deuxièmement, la romancière pouvait s'envoler dans cette niche absolument incroyable. Et surtout, une niche incroyable, d'autant plus que Rosa dit de manière très claire qu'elle a consacré toute sa vie à l'art, à son idéal, qu'elle n'a pas failli et qu'elle est morte vierge, pure, conforme à l'idéal qu'elle s'était fixé au moment de la mort de sa mère. Elle est très jeune, elle a 11 ans, où elle décide de devenir vestale de l'art au sens romain du terme. Donc ce sont ces vierges qui se consacrent aux divinités, mais à la cité, qui vont jouer un rôle considérable dans la Rome antique. Et donc elle dit bien qu'elle est morte fidèle à cela. Et donc là, je trouvais qu'il y avait une histoire, une tension et un secret qui demandait à être à la fois exploré, dénoué, réarticulé et livré. Voilà. C'est finalement, en fait, c'est une histoire très anglaise.
Vous dites qu'elle a une certaine conception de la place de la femme qui est l'égale de l'homme. Elle l'attire en partie de son éducation. Sa famille fréquentait le milieu des Saint-Simoniens. De quelle façon porte-t-elle l'influence de ce mouvement qui est très important au XIXe siècle ?
Alors, ce qu'il faut peut-être préciser pour des auditeurs qui ne connaissent pas la vie de Rosa Bonheur. Rosa Bonheur est née à Bordeaux en 1822, donc nous célébrons le bicentenaire de sa naissance. Et elle dans une famille dont le père est peintre et la mère est musicienne. Et à Bordeaux, très vite, même si le père est un très bon peintre, il n'a pas les moyens, le Bordeaux ne permet pas à des artistes de vivre, et donc il va quitter sa famille, laissant sa femme et ses enfants, pour monter à Paris dans l'espoir d'une nouvelle vie meilleure pour pouvoir faire venir sa famille. Et c'est à Paris qu'il va rencontrer les Saint-Simoniens. Et là, ça va être un choc très important qu'il va partager avec sa femme, Sophie, et ils vont échanger des lettres absolument passionnées parce que tout simplement, cet idéal des Saint-Simoniens qui est de œuvrer pour le progrès de l'humanité, c'est un progrès à tous les sens du terme. Ils sont persuadés qu'en développant en les techniques, la condition sociale de tout le monde pourra être améliorée, améliorer le bien commun de tout le monde est quelque chose de très très important, mais également sur le plan de l'égalité entre les hommes et de la femme, il y a un discours totalement nouveau, c'est que la femme est bien l'égale de l'homme, et même Rosa Bonheur écrit que en fait la femme est là pour relever le genre humain. Donc on met véritablement la femme sur un piédestal. Les Saint-Simoniens vont aller très loin. Il va y avoir deux branches. Donc ce sont, pour précision pour nos auditeurs, que ce sont les Saint-Simoniens sont les héritiers, non pas de notre duc du temps de Louis XIV et qui décrit toute la cour de Louis XIV de manière absolument merveilleuse et cruelle, mais que nous sommes donc sur l'un de ses descendants qui, lui, était parti aux États-Unis, avait fait la guerre de l'indépendance américaine, qui s'était donc frotté à une réalité sociale autre et qui va revenir en France porteur d'idées sociales nouvelle, très généreuse et absolument fondamentale pour l'évolution en fait historique de notre pays. Et son héritage va tomber dans les mains de deux personnes avec des visions un peu différentes. L'un s'appelle Bazard, l'autre s'appelle L'Enfantin. L'un, le premier Bazard, dont la femme était très proche de Rosa Bonheur, de la mère de Rosa, de Sophie, assez les pieds sur terre, malheureusement ne va pas l'emporter dans le courant saint-simonien, et c'est L'Enfantin qui est plus qui était plus flantasque, qui va un peu transformer tout cela sous forme de secte en créant son fameux couvent de Ménilmontant et en invitant tous les saint-simoniens à venir s'installer là-bas comme des moines au service de cette grande cause. Et bien le père de Rosa va choisir cette tendance qui est une tendance qui est vraiment jusqu'au boutiste et qui va avoir pour contrepartie, on prône l'égalité de l'homme et de la femme, mais on laisse, on quitte sa femme. Entre-temps, tout le monde avait emménagé à Paris, et on quitte sa femme, on abandonne sa femme et ses enfants dans des conditions effrayantes. C'est-à-dire que Sophie, ses cachets de musicienne ne suffisent pas, elle fait de la couture le soir jusqu'à pas d'heure en s'usant les yeux, le matin elle est très tôt au marché pour avoir des légumes moins chers pour nourrir sa famille, et une à deux fois par semaine, on va au couvent de Ménilmontant, admirer ces Saint-Simoniens dans leurs costumes invraisemblables, dessinés d'ailleurs par Raymond Bonheur, donc le père de Rosa, et voir tout cet ensemble de personnes qui sont sur une autre planète et qui sont complètement déconnectées de la vie réelle. Ils en sont à aller chercher, de même qu'il y a eu un Messie, le Christ, eh bien, on cherche la nouvelle femme, la nouvelle Ève, et on est allé jusqu'à aller proposer ce rôle à George Sand, qui évidemment est parti en courant. Et d'ailleurs, toutes les femmes vont hurler en disant « mais on ne peut pas représenter les femmes dans une femme, qu'est-ce que c'est que ça ?» etc. Mais donc c'est le contexte dans lequel Rosa a grandi. Et quand sa mère va mourir très jeune de maladie, va être...
D'épuisement, on pourrait même
d'épuisement,
dire.
Absolument. D'épuisement eh bien, et de pauvreté. Rosa va grandir, c'est vraiment une enfant qui va grandir dans la pauvreté. Et une pauvreté très digne, la pauvreté de ces artistes qui sont absolument magnifiques pour cela. On se contente de très peu. Et parce qu'on travaille pour une cause supérieure qui est celle de l'art, mais d'une pauvreté réelle dont va mourir sa mère, eh bien, Rosa va rester imprégnée par cette conviction que la femme est l'égale de l'homme, et son père qui va revenir au foyer pour s'occuper de ses enfants en envoyant deux en pension, la troisième chez une nourrice à Bordeaux liée à sa famille, et ne gardant que Rosa en essayant de lui apprendre des métiers, et Rosa va vite lui faire comprendre qu'elle ne veut pas faire ça, mais elle veut devenir comme lui, peintre, eh bien, il va lui transmettre cet idéal qui est extrêmement important, même si cet idéal, finalement, reste un idéal. Chez Raymond Bonheur, c'est extraordinaire. Quand Rosa va peindre ses premières toiles pour les présenter au salon de peinture à Paris, eh bien, elle va demander « Mais sous quel nom je dois signer ?» Et il va lui répondre « Mais sous le mien, sous le nom du père. » Et elle va signer sous le sien, celui de Rosa Bonheur, en ajoutant les initiales de son père. Mais elle va se battre toute sa vie. C'est une femme qui, toute sa vie, va se battre déjà pour gagner sa vie, puisque ce père est absolument à la fois génial, un excellent professeur, et parce que ça va être son seul maître. Et elle n'aura que deux maîtres. À l'époque, les femmes ne peuvent pas aller aux Beaux-Arts. Elles n'ont pas accès à cette qualité d'enseignement. Et elle a la chance donc d'avoir un père qui va la former. Et puis, elle a la chance d'aller au Louvre. Et donc, elle a de copier les plus grands maîtres. Rosa Bonheur, je crois qu'il faut quand même le préciser, on dit toujours elle peint les animaux, mais c'est aussi une portraitiste, c'est une femme dont on va redécouvrir la qualité du dessin grâce à toutes les expositions qui vont avoir lieu cette année, à la fois au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, au Musée d'Orsay, mais aussi à Thomery dans sa maison, où il va y avoir deux expositions de photographie de ses œuvres disparues et de son intimité. On va pouvoir se rendre compte de la richesse des choses. Et Rosa était une grande artiste extrêmement douée. Elle a élevé son art au rang de celui des hommes. Son père voulait de faire d'elle une Madame Vigée-Lebrun. Elle va choisir le portrait, celui d'animal, mais elle va surtout choisir, elle, quand elle deviendra enseignante à son tour, elle va proposer aux jeunes filles de devenir des Léonard de Vinci. C'est-à-dire qu'elle porte l'art et le talent au plus haut niveau. Et ce qui va être absolument extraordinaire, c'est que dès ses premières productions et les premières expositions, ses tableaux vont être repérés et très vite, on va dire qu'elle peint comme un homme.
Elle va connaître une très belle carrière avec... bien sûr, elle est présente chaque année au salon, elle reçoit plusieurs médailles, elle reçoit des commandes publiques. Et puis, elle gagne aussi très bien sa vie.
Oui, elle va très vite gagner sa vie. Dès l'âge de 11 ans, elle commence à gagner sa vie en colorant des petites gravures, etc. Très vite, elle va vendre des tableaux et très vite, elle va très bien gagner sa vie. Et ça, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel pour une femme à cette époque-là.
C'est la condition de l'indépendance, quelque part.
C'est la condition de l'indépendance. Cette indépendance, elle est chèrement payée parce que ça veut dire surtout, elle a toute une famille à charge puisque son père n'est pas capable d'assumer ça. Donc, c'est elle qui va assumer. Elle va avoir ses fameuses commandes d'État. Donc, tout le monde connaît le magnifique labourage nivernais qui est exposé au musée d'Orsay. On a cet extraordinaire marché aux chevaux, malheureusement.
Qui a été un tournant dans sa carrière.
Qui a été un tournant dans sa carrière, je dis malheureusement, parce que Rosa rêvait que ce soit la ville de Bordeaux qui le lui achète. Et Bordeaux ne l'achètera pas, Gand non plus. Et grâce à un marchand d'art belge installé à Londres, Ernest Gambard, qui aura un rôle considérable sur sa carrière, eh bien, il va acheter ce fameux marché aux chevaux pour la somme considérable de 40 000 francs, qui est l'équivalent d'un château à l'époque. Et quelques années après, elle va effectivement acheter son château de Bie. Cette somme qui est extraordinaire montre aussi la confiance qu'un marchand d'art a pu avoir. Il a eu une idée de génie, il a vu Rosa Bonheur, il a vu cette femme originale qui a le courage de se lever tôt, qui va travailler sur les modèles d'après nature, qui va non seulement dans les fermes, mais également sur les marchés aux chevaux, dans les abattoirs, etc. Elle va demander, pour pouvoir travailler dans ces conditions et ne pas subir des bousculades ou des agressions, car elle laisse un elle dit un mot dans ses mémoires à ce sujet. Elle va demander donc...
Il y a un passage de votre livre qui montre une agression.
Oui,
un
absolument.
Viol, finalement, on comprend.
Voilà. Est-ce que ça a été jusque-là? Elle parle elle-même d'une agression et donc elle a demandé un permis de travestissement. Et quand on regarde la procédure de l'époque, d'abord, les permis de travestissement étaient vraiment vraiment accordé sur les doigts de la main. Il y en avait 5 sur Paris. Il fallait avoir un certificat médical. Donc, ensuite, c'est renouvelé tous les 6 mois. Alors, et par exemple, George Sand avait un permis de travestissement accordé par le département de la Nièvre. Et il y en avait aussi 5 qui étaient accordés. Donc, il y en avait très, très, très peu. Mais ce qui est très intéressant avec Rosa Bonheur, c'est que... en tant que figure du féminisme, c'est que pour elle, la femme est l'égale de l'homme et, contrairement à ce qu'a fait George Sand ou ce qu'ont fait d'autres femmes, c'est que pour elle, on n'a pas besoin de prendre un prénom masculin pour être l'égale de l'homme. Et donc, elle a accepté de peindre sous le nom du diminutif donné par sa mère, Rosa. Rosa Bonheur, c'est un nom incroyable. On se demande si c'est un vrai nom, en fait. Et puis, le second point, c'est que pour elle, le port du pantalon est un instrument de travail. Et donc, il sert pour aller sur tous les lieux où elle va travailler. À la fin de sa vie, comme elle est chez elle, dans cette maison à la lisière de la forêt de Fontainebleau, et qu'elle passe son temps avec les animaux et en forêt, elle est tout le temps en pantalon. Et quand c'est très intéressant, elle reçoit ses amis, quand ce sont des proches, elle est en pantalon, mais sinon, elle est toujours en robe. Donc, c'est même si ça lui coûte quelquefois, parce qu'elle trouve que c'est quelque chose de tellement pratique, pourquoi la femme s'en priverait-elle ? Mais ça n'est pas grave. C'est quelqu'un qui va faire avancer le combat des femmes tout en restant dans les conventions de son époque. Là où elle va, effectivement... étonnée et détonnée, c'est quand elle va décider de s'installer avec son amie d'enfance qui est Nathalie Micas. Et ça, c'est une histoire absolument formidable parce que Rosa Bonheur n'aurait pas pu produire autant seule. Rosa Bonheur grandissait dans l'atelier de son père. Entre-temps, ses frères et sa sœur l'ont rejoint. C'est un atelier qui produisait pas mal. Mais du coup, elle est accaparée par sa famille. Sa grande chance, c'est que les parents de sa meilleure amie, Nathalie Micas, ses parents vont intervenir auprès de son père pour lui dire « Mais il faut que Rosa ait son indépendance » pour pouvoir donner tout le meilleur d'elle-même. Elle a un vrai talent, il faut lui donner sa chance. Et sa chance, c'est d'avoir son propre atelier. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Lui trouver son propre atelier. Le père va rechigner, mais ça coûte cher, etc., etc. Et donc, les Micas vont l'aider. Et puis, il y a cette amie d'enfance qu'elle connaît depuis toute petite. Au début, ce sont des relations assez cruelles de jeux d'enfants. On ne reviendra pas dessus. Et qui vont se développer en une immense amitié. Pourquoi ? Parce que c'est très intéressant. Toutes les femmes qui ont entouré Rosa ont un tout pour point commun. D'avoir ressemblé à sa mère. Elle rencontre Nathalie Micas, c'est un choc quand elle la revoit, parce qu'elle voit le portrait de sa mère. Anna Klumke, à la fin, elle voit le portrait de sa mère. Entre-temps, elle aura une amie qui va, ça va être un coup de foudre aussi, qui est une chanteuse, une soprano, qui est Caroline Miolan-Carvalho, donc une grande, grande vedette de l'époque. Rosa va avoir un coup de cœur, car c'est la voix de sa mère. Toute sa vie, Rosa va être traumatisée par la mort de cette mère qui a tout donné et à laquelle elle n'a pas pu donner une tombe puisque elle n'avait pas les moyens. Et donc, ça, c'est le premier point. Donc, c'est quelque chose de très fort. Et donc, Nathalie Micas, elle, va être là avec cette douceur, c'est quelqu'un qui est très pratique, qui a vraiment et qui est très douée. Et donc, elle est à la fois, elle a mille et une qualités.
Quel est son rôle, du coup, auprès de Rosa Bonheur.
Elle va tenir véritablement l'intendance avec sa propre mère, parce qu'entre-temps, elle aussi a perdu son père. Et donc, quand Rosa, une fois le succès passé, ce marché aux chevaux qui a ce succès considérable, cette immense tournée promotionnelle en Angleterre, en Écosse, où il y avait des centaines de personnes qui la suivaient dans la rue, ici à Paris, à ce moment-là, son atelier est rue d'Assas, il y a un monde fou le vendredi, qui est le jour où elle reçoit. Elle ne peut plus recevoir elle ne peut plus travailler tellement il y a de personnalités qui se précipitent chez elle. Il y a le tout Paris qui est politique et artistique qui se précipite chez elle. Elle va vouloir fuir et donc elle va acheter cette maison à Thomery, mais elle ne peut pas y habiter seule. Et donc elle va demander à Nathalie et à sa mère de venir habiter avec elle. Et là, c'est très intéressant, et c'est là où elle est très moderne, c'est que, en fait, les trois vont décider de signer un contrat juridique qui définit bien les choses. C'est-à-dire que les Micas ne veulent pas vivre au crochet de Rosa. Et ils acceptent de venir à Tomri à condition de payer un loyer proportionnel à l'espace qu'ils occupent et de partager les tâches. Donc, Madame Mika s'occupe de la cuisine et de la maison, et Nathalie va s'occuper des animaux, puisqu'il y a près entre 200 et 300 animaux qui absolument invraisemblables qui sont là-bas. Il y avait déjà des animaux dans la cour autour de la rue d'Assas et dans la ferme qu'elle louait un peu en dehors de Paris. Et donc, tout ça, ça va être un apport considérable. Nathalie Mika est donc douée en botanique également. Elle s'intéresse à la pharmacopée, elle s'intéresse à mille et une choses, à la mécanique. Elle va même inventer un frein à disque qui va être créé et inventé à Tomri. Et du coup, Rosa va avoir un temps, son temps va, pour elle, va être intégralement dédié à la peinture. Et le sacrifice de Nathalie Mika est d'autant plus important que j'ai découvert que Nathalie Mika était une très grande peintre, suffisamment grande pour que quand le marché aux chevaux a fait sa tournée en Angleterre, Nathalie Mika avait elle aussi des tableaux qui étaient présentés. Et elle va écrire une lettre à sa mère en disant, écoute, maman, ne le dis à personne, mais Rosa reçoit tellement de commandes, ce sont des commandes, une vie n'y suffira pas, je vais l'aider et je vais préparer les toiles, mais ne le dis à personne. Et donc, c'est ça aussi cette association, c'est-à-dire que Nathalie va donner toute sa vie pour Rosa, non seulement en faisant tout ce dont je viens de parler, mais également en préparant ses toiles et en faisant un travail considérable. Et c'est d'ailleurs, on a parlé du fameux marché aux chevaux, ce très grand tableau qui est vendu une fortune. C'est grâce à Nathalie qui va proposer le prix à Gambard, de manière qui va même étonner et affoler Rosa. Eh bien, Rosa va se dire, mais un tel format, 5,40 m de long sur 2 m 20 ou 30 de haut, jamais il n'arrivera à le vendre. Je vais donc lui donner un tableau plus petit, comme ça il rentrera dans ses frais. Et ce tableau plus petit a donc été largement préparé par Nathalie. La seule chose que Rosa n'avait pas du tout prévu, c'est que la National Gallery de Londres l'achèterait. Et là, elle est extrêmement ennuyée. Et très honnêtement, elle dit non, je ne pensais pas que ce serait pour un musée comme cela. Écoutez, je vous propose de le reprendre et de vous en refaire, moi, un original de même format pour le faire. Mais les conditions d'acquisition des œuvres ne permettent pas de changer les choses. Et donc, le tableau qui va rester et qui est à la National Gallery est celui-là. C'est une histoire incroyable. Alors, pendant que j'écrivais mon livre, par exemple, dans les greniers du château de Tomri, il a été découvert une toile roulée de chanvre énorme. Et quand elle a été déroulée, c'était la première version du marché aux chevaux. Donc c'est quelque chose de formidable. Tous les jours, il y a des nouvelles découvertes, des nouveaux dessins où on voit des portraits. Rosa était aussi une très bonne portraitiste. On ne l'a jamais dit, mais il y a des dessins. Il y a par exemple un dessin, la plume qui représente Jean-François Millet, qui était son camarade au Louvre quand elle faisait des copies, qui est absolument extraordinaire. Donc c'est tout cela qu'on est en train de redécouvrir, cette femme qui a eu une vie incroyable, parce que en fait elle a mené sa vie pas à pas, en montrant que une femme peut être l'égale de l'homme, elle peut, avec le produit de son travail, s'acheter une maison, elle peut transmettre son héritage à des femmes, ce qui ne se faisait pas. On a un peu oublié les béguinages et les endroits où les femmes aujourd'hui vivaient ensemble, donc nous, notre vision du 21e siècle, on a un peu de mal à comprendre tout ça. Mais pour elle, c'est quelque chose de très logique. Et surtout, elle faisait partie aussi de ces femmes qui ont beaucoup espéré dans le droit de vote. Et ce droit de vote, on a au musée d'Orsay un dessin préparatoire du foulard dit de Passy, où on voit, c'est très 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 amusant, où on voit tous les personnages de la maison de Bi qui sont représentés. Et on voit la mère Mika qui tourne
touille sa grosse marmite, ce qui est normal puisqu'elle est à la cuisine. Et sur la marmite, quand on regarde bien, il y a écrit le suffrage universel. Et en fait, ce suffrage universel de 48, qui malheureusement était uniquement masculin et qui a provoqué une colère sans nom parmi toutes ces dames, c'est tout à fait normal. C'est une femme qui vraiment s'est battue. La guerre de 70, par exemple, elle voudra prendre les armes contre les Prussiens pour sauver son village. Donc le maire va intervenir, bien évidemment. Mais voilà, c'est une femme qui est vraiment qui va vouloir avancer sur tous les combats. Elle va avancer sur les combats de la nature, protéger la forêt de Fontainebleau contre les ravages, et puis montrer aussi que les animaux ont une âme.
Alors, Rosa Bonheur a été très célèbre de son vivant, et puis ensuite, elle est un peu tombée dans l'oubli. On l'a réduite à certains chants. Elle semble susciter un regain d'intérêt. Pour vous, comment expliquer cette éclipse? Et puis, qu'est-ce qui suscite particulièrement l'intérêt aujourd'hui?
Alors, je dirais que ce sont les mêmes raisons qui ont présidé à son éclipse qui vont présider à sa renaissance. Ces raisons sont liées au regard qu'elle a porté sur les animaux et sur la nature. Elle a eu une conscience très tôt et très aiguë, d'abord de la fragilité de l'environnement dans lequel on vit. Il ne faut pas oublier qu'elle est arrivée de Bordeaux, elle a 7 ans, en diligence, tirée par des percherons, au rythme des percherons, ce qui veut dire que dans les montées, quand ça monte un peu trop, on peut presque marcher à côté. On marche à côté et puis on remonte ensuite dans la diligence. Et ensuite, elle a voyagé sur ces trains qui ont traversé la France et qui ont permis, comme l'espéraient les Saint-Simoniens, aux régions de se rejoindre, de donner du travail, etc. etc. Et en même temps, elle va s'en rendre compte très vite, de la destruction des paysages. Et ça, très vite, elle va en être consciente. Et en plus, elle vit dans un Paris qui est le Paris d'Haussmann, le Paris des grands travaux. Et donc, elle va vivre dans un Paris qui, sur la rive droite, va voir s'enfoncer la gare Saint-Lazare. De la rive gauche, on voit remonter donc, cette gare Montparnasse avec la traversée de la rue de Rennes, qui d'ailleurs était projeté pour même traverser ici l'Institut de France.
Ce qui horrifiait Rosa Bonheur.
Ce qui horrifiait Rosa Bonheur, parce que Rosa Bonheur était très attachée au patrimoine. Et donc, ce patrimoine, elle raconte elle-même dans une de ses lettres, elle dit combien c'est important pour un artiste d'aller sur ces traces du passé, regarder tous ces vestiges du passé. Et elle était malheureuse de voir cette destruction de Paris, même si c'était pour un Paris plus beau, plus confortable, etc. etc. Et donc, Rosa est très sensible à la nature, à ce monde qui change. Elle est très sensible à la condition des animaux, puisqu'elle va habiter à côté des abattoirs du Roule. Elle n'est pas loin des marchés aux chevaux. Elle assiste à cette violence faite aux animaux et elle va le dénoncer. Et en même temps, elle est très proche d'un certain nombre de scientifiques comme les Geoffroy Saint-Hilaire, donc trois générations, qui vont être au service du Muséum d'Histoire Naturelle et qui vont faire un travail absolument considérable pour transmettre la mémoire de toutes les races animales. Et donc, le père de Rosa va participer à cette aventure et Rosa va participer également. Et donc, avec ses frères. Et donc, ils vont faire un véritable travail scientifique. Elle travaille beaucoup sur les écorchés, elle travaille beaucoup sur les différents animaux, elle les connaît par cœur.
Sur l'anatomie notamment.
Et donc, elle travaille énormément sur l'anatomie. Et elle connaît ces animaux de manière extrêmement intime. C'est pas simplement je vais peindre les animaux dans la nature. Je travaille par derrière sur les documents. J'ai retrouvé donc des feuilles où il y a toutes les mensurations de tous les animaux qui sont bien repérés. Et ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Le squelette, la musculature, etc., etc. Donc elle travaille énormément. Et ces animaux, ce qu'elle veut, c'est transmettre ce regard et ce regard qui est saisissant. Dans ses œuvres. Ils sont là, ils sont extrêmement présents et ils ont une force incroyable. Alors, ça a une force incroyable, mais comme disait Cézanne en voyant ses bœufs, mon Dieu, c'est horriblement ressemblant. Et donc, ce réalisme de sa peinture qui fait son succès, bien sûr, en France, mais évidemment en Angleterre, les Anglais raffolent de la peinture de Rosa Bonheur, et évidemment aux États-Unis, eh bien, très vite après sa mort, malgré le mal que se donnera Anna Klumke pour créer un prix Rosa Bonheur, elle va se donner énormément de mal parce qu'elle va être obligée de vendre toutes les œuvres de Rosa Bonheur
Et donc, on va avoir sur le marché partout tout ce que Rosa ne voulait pas voir vendre, à savoir ses esquisses, etc., et ses dessins. Eh bien, les prix vont s'effondrer compte tenu de la quantité qui va être mise sur le marché. Et puis surtout, c'est la grande montée des impressionnistes. Donc, elle va passer complètement dans les oubliettes de l'histoire, d'ailleurs, comme tous les peintres de cette tendance réaliste. Encore beaucoup d'historiens de l'art trouvent que, mon Dieu, se commettre dans cette peinture, c'est descendre bien bas. Et donc là, la seule chose, c'est qu'on est... on est à une juste période où ce bicentenaire coïncide aussi avec des événements que Rosa a connus, une pandémie, elle a connu le choléra, nous avons connu, la nôtre, elle a connu la guerre de 70, on réapprend ce qu'est la guerre. On est dans une période où on regarde aussi, on a surtout cette urgence écologique et qui nous remet face à la nature avec des décisions à prendre et une invitation à regarder d'un autre œil la peinture de Rosa Bonheur. Parce que quand on voit aujourd'hui toutes ces disparitions des animaux, on se dit mais mon Dieu, mais quelle chance nous avons d'avoir ce patrimoine pictural conservé grâce à elle. Donc je pense qu'on va regarder tout cela d'une autre manière. Et j'ai encore une toute petite seconde pour ajouter. Elle-même dira à la fin de sa vie qu'elle aurait aimé peindre davantage de paysages. Mais je pense qu'on va certainement redécouvrir une Rosa Bonheur, comme je l'ai dit tout à l'heure, portraitiste, mais aussi peintre de paysages, avec des très beaux tableaux qui sont conservés un peu partout dans le monde et qui montrent qu'elle avait un travail sur la couleur qui était très, très, très intéressant et assez magnifique. Et en plus, elle fait partie de ces peintres qui travaillaient comme les anciens, sans addictifs ni quoi que ce soit, avec des pigments qui ont gardé toute leur fraîcheur jusqu'à nos jours. Elle était impitoyable sur la qualité de sa palette, qui devait être très propre, qu'elle nettoyait elle-même tous les jours, sur ses pinceaux, etc., pour que la peinture puisse se conserver.
Eh bien, voici donc Rosa Bonheur, une femme qui parle à notre temps. Un grand merci, Patricia Bouchenaud-Deschins, de votre venue. Je rappelle donc le titre de votre livre, qui est un roman historique autour de la figure de Rosa Bonheur, un roman biographique, « J'ai l'énergie d'une lionne dans un corps d'oiseau », et c'est aux éditions Albin Michel. Merci.
Merci beaucoup.